Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Je vous invite dans cette émission à visiter la bibliothèque de l'Académie d'agriculture, une académie vénérable puisqu'elle est l'héritière directe de la Société royale d'agriculture de la Généralité de Paris, fondée en 1761. Elle est devenue, au fil des péripéties de l'histoire, Société royale d'agriculture de France en 1788, Société d'agriculture de France en 1790, et elle a, selon les régimes politiques, changé de nom plusieurs fois, mais l'essentiel de sa mission est resté, et on la désigne désormais, et ce, depuis 1915, sous le nom d'Académie d'agriculture de France. Mais nous reviendrons certainement dans une autre émission de Canal Académie sur cette histoire mouvementée. Disons simplement qu'elle est aujourd'hui abritée dans un bel hôtel de la rue de Bellechasse, dans le 7e arrondissement de Paris, et que ses séances sont ouvertes au public chaque mercredi à 15h. Aujourd'hui, c'est dans la bibliothèque, et de cette bibliothèque que nous allons parler en compagnie de son directeur, M. Pierre Zert, qui est membre titulaire de l'Académie depuis 1986. Merci, M. Zert, de nous accueillir dans ce bel endroit. Et je suis sûre que vous y conservez de beaux trésors. D'abord, des trésors d'un fonds. De quel fonds relève cette bibliothèque? Essentiellement, 18e?
19e.
18e et 19e.
18e et 19e. Moitié du 18e et le 19e.
Alors, il y a quelques beaux trésors qu'on a pu regarder ensemble, puisque vous me les avez fait visiter. Un dictionnaire économique qui date de 1767, et puis un théâtre de l'agriculture d'Olivier de Serres qui date de 1600. Alors, un petit mot sur Olivier de Serres?
Oh, Olivier de Serres est véritablement considéré comme le père de l'agriculture. Il a écrit un livre tout à fait remarquable, qui a été réédité une trentaine de fois, je crois, et qui notamment réédité par la Société d'agriculture de l'époque, qui l'a rajeuni, complété et surtout traduit dans un langage plus compréhensif que le français du 16e siècle.
Oui, c'est un peu difficile. Il y a aussi, vous m'avez montré, un exemplaire très rare d'un livre qui a été acheté par Buffon et signé de la main de Buffon. Buffon l'avait acheté. Ce livre s'intitule « Traité général de culture et de jardinage » de M. Bradley, professeur de botanique à Cambridge. C'est un livre en anglais.
C'est ça.
Et comment l'avez-vous eu? Comment l'avez-vous trouvé?
Oh ben je ne sais pas. On l'a découvert, comment dirais-je, dans le fond, comme ça. On ne sait pas quelle est l'origine.
Mais il avait été acheté par le père de Mirabeau, ce qui est tout de même un événement aussi. Et ce livre date de 1726. Et vous m'avez aussi montré de très beaux livres, alors illustrés, avec des planches magnifiques qui représentent des plantes, figures des plantes économiques, qui datent de 1786, d'un certain Jean-Simon Kermer, à Stuttgart, et puis un traité des arbres fruitiers.
Oui, le traité des arbres fruitiers de Duhamel du Monceau, qui date, je crois, de 1768,
voilà.
Et qui a été réédité ensuite avec les illustrations de Poitou.
Et Turpin, voilà, un siècle après.
Un siècle après, en 1855. Enfin, ça fait partie des superbes livres illustrés qui ont été réalisés par les botanistes du muséum en particulier, qui sont absolument superbes, mais qui ne représentent pas le véritable cœur du fond.
Oui, ce sont les trésors. Alors, quel est le véritable cœur du fond de cette bibliothèque?
C'est de suivre l'agriculture française pendant 200 ans.
C'est donc une mémoire, cette bibliothèque est vraiment une mémoire, comme toutes les bibliothèques, avec un grand intérêt historique.
Exactement. Les livres qui sont là sont des livres qui ont été faits et écrits par des professeurs, des chercheurs, des spécialistes, etc. Mais aussi par des professionnels, jardiniers, paysagistes, cultivateurs. Mais pas simplement la fonction de production, mais toutes les autres fonctions, c'est-à-dire les problèmes de législation, les problèmes
économiques, véritablement, oui.
Les problèmes de construction, les problèmes d'animaux, de leurs maladies, etc. Et avec les moyens dont les chercheurs disposaient à l'époque.
Ah, vous m'avez dit, en effet, que la caractéristique de l'Académie d'agriculture, c'est cette rencontre, pour ne pas dire ce mélange, entre des savants, des chercheurs et des professionnels du monde de l'agriculture.
C'est ça. Et la formule du baron de Breteuil est très bonne.
Ah oui, lisez-la, lisez-la.
C'est une réunion intéressante des cultivateurs éclairés, des savants utiles et de riches propriétaires, afin d'améliorer les techniques, de perfectionner les procédés et de répandre l'instruction et l'élevage.
C'est une belle mission alors.
C'est une belle mission et ça revêt à l'heure actuelle une grande actualité. Par exemple, au XVIIIe, début du XIXe siècle, finalement, le problème essentiel auquel avaient à faire face les agriculteurs, c'était l'observation. Et ce n'était pas le recours à des séries de procédés savants et extrêmement complexes, mais le sens de l'observation. C'est quelque chose qu'on retrouve, si vous voulez, dans ces écrits du début du XIXe siècle. L'expérience et le sens de l'observation des gens. Écrit d'une façon souvent tout à fait spontanée et intéressante. Et par conséquent, tous ces vieux textes gardent une actualité véritablement importante. Et le problème, c'est qu'à côté des livres d'hommes savants, nous avons les grandes publications, les grandes revues.
Donc des journaux de l'époque.
Qui sont reliés en plus, parce que...
De différentes époques,
mais essentiellement...
Le journal qui date de la Révolution.
Oui, de l'an 5 à 1873.
La feuille du cultivateur.
Non,
c'est pas celui-là.
La feuille du cultivateur, c'est la période révolutionnaire.
Ah d'accord.
Qui est d'ailleurs assez étonnante en voyant le niveau des choses qui sont traitées. On se demande comment des gens, des agriculteurs, enfin, qui étaient vraisemblablement presque analphabètes, pouvaient absorber et comprendre certains de ces messages.
Mais ça existait.
Oui.
Et après, il y a eu donc l'Encyclopédie de l'agriculture, après la Révolution, et puis surtout les deux grandes revues, fin 18e, début 19e.
Le Journal d'agriculture pratique,
voilà.
Et de 1835 à 1937. Alors ce sont le témoignage de revues de base de l'époque.
Alors qui donne à la fois des articles de scientifiques, mais aussi, comme vous le disiez, des éléments sur le transport, les animaux malades, et donc qui pouvait faire travailler aussi d'autres académiciens avec d'autres disciplines que l'agriculture, les sciences, par exemple, la médecine.
Bien sûr. D'ailleurs, les sociétés d'agriculture de l'époque comportaient un nombre important de membres de l'Académie des sciences. Jusqu'à 20%, par exemple, des membres de l'Académie de médecine. Et dans le journal d'agriculture pratique, Pasteur a écrit un nombre assez important d'articles, une soixantaine, je pense.
Pierre Zert, combien de volumes dans cette bibliothèque sont réunis ?
35 000.
Et comment se répartissent-ils ? Vous en avez fait le relevé.
Non, relevé, mais pas le catalogue.
Pas le catalogue,
c'est,
vraiment.
C'est un de nos problèmes, d'ailleurs.
Alors, qui sait ce qu'il y a dans ce fonds, part vous ?
Il y a des fiches, il y a des registres, voilà. Il y a évidemment une certaine classification qui a été opérée.
Et êtes-vous en train de passer à l'informatique ?
Chaque fois que nous avons essayé, nous avons échoué pour une question bassement matérielle, c'est-à-dire de coût.
De coût, de prix, je suppose, en
oui.
effet. Pierre Zert, donc, cette bibliothèque, elle offre un intérêt historique. Y a-t-il des jeunes chercheurs qui viennent ici
oui,
s'informer ?
C'est, si vous voulez, l'essentiel de notre clientèle, si j'ose dire. Des jeunes qui font soit des rapports intermédiaires, soit des thèses sur différents sujets. C'est la première grande catégorie. La deuxième grande catégorie vient de gens qui s'occupent de leur généalogie.
Ah bon ?
Il est bien certain que la plupart de ces livres ont été écrits à une époque où la classe paysanne, ou les ruraux même, d'une manière plus générale, étaient dominants largement. Et par conséquent, les membres et les correspondants des sociétés d'agriculture sont recherchés, si j'ose dire, par leurs descendants, qui cherchent à en savoir un peu plus. Et ça, c'est la grande partie
la
de
grande
la
demande,
deuxième
voilà.
clientèle. C'est la troisième grande clientèle, ce sont des étrangers.
Ah oui, au fond, voilà, c'est bien. C'est-à-dire que grâce à la généalogie, les académiciens et les membres de la société d'agriculture sont toujours vivants. Ils sont toujours recherchés.
Absolument, et dans toutes les sociétés qui se sont succédées, nous avions des membres et des correspondants étrangers. Thank you.